Vous écoutez, on lit pour vous.
Cancer, diabète. Les soupçons sanitaires s'accentuent sur plusieurs conservateurs alimentaires. Un texte de Science et Avenir avec AFP, paru le 9 janvier 2026 dans Science et Avenir. Deux études de l'INSERM publiées dans BMJ et Nature Communications révèlent que certains conservateurs, sulfite, nitrite, sorbate, augmente les risques de cancer et de diabète. Sulfite, nitrite, sorbate. Très présents dans les aliments industriels, ces additifs sont soupçonnés depuis des années de favoriser l'apparition de certaines pathologies. Deux importantes études françaises montrent aujourd'hui qu'ils sont associés à un plus grand risque de cancer et de diabète. Il faut limiter la fréquence de l'exposition à ces produits. Ce n'est pas parce qu'on va consommer des produits avec des conservateurs qu'on va avoir tout de suite un cancer, mais il faut limiter la fréquence de l'exposition à ces produits, estime auprès de l'AFP Mathilde Touvier, l'épidémiologiste qui a supervisé ces deux études. Le message pour le grand public, c'est, face à un rayon de supermarché, de privilégier les aliments les moins transformés. Les conclusions de ces études, réalisées par la même équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, et publiées le jeudi 8 janvier 2026 dans les revues BMJ et Nature Communications, doivent être interprétées avec prudence, au regard de l'ampleur modérée des risques observés. Néanmoins, ces travaux sont d'une robustesse inédite. Ces résultats pourraient avoir des implications importantes en matière de santé publique au vu de l'omniprésence des conservateurs dans une large gamme d'aliments et de boissons, conclut l'étude publiée dans Nature Communications qui se concentre sur le risque de diabète. Ces publications s'inscrivent dans un contexte où les risques sanitaires de nombreux aliments industriels sont de mieux en mieux documentés, mais où leur régulation fait encore l'objet de divergences politiques. En France, la publication d'un plan stratégique sur l'alimentation et le climat a, ainsi, été bloquée à la dernière minute, à l'automne, en raison de désaccords gouvernementaux sur les risques représentés par les aliments ultra-transformés. Par contraste, le Royaume-Uni vient d'interdire en journée la publicité télévisée pour certains aliments industriels. Dans ce contexte, les deux études publiées le 8 janvier apportent d'importants éléments de réponse. C'est la première fois que des chercheurs parviennent à distinguer de manière aussi précise les risques associés à chaque conservateur. Les chercheurs se sont basés sur l'étude d'une large cohorte de Français, plus de 100 000 personnes, suivies pendant plusieurs années avec des questionnaires très réguliers sur leur alimentation, ainsi que des données précises sur la composition des produits consommés. Des risques mal évalués. Ils en concluent que la consommation de plusieurs conservateurs, en particulier les sorbates, les sulfites et les nitrites, est associée à une plus grande fréquence de cancer. L'association la plus forte concerne le nitrite de sodium, E250, et le cancer de la prostate, dont le risque est augmenté d'environ un tiers. Ce degré de risque reste limité au niveau individuel. À titre de comparaison, le tabagisme multiplie par plus de 15 le risque de cancer du poumon chez les gros fumeurs. Mais au niveau collectif, il représente un nombre élevé de malades supplémentaires au vu de la présence importante de ces additifs dans l'alimentation. Et, par rapport au cancer, les risques associés aux conservateurs apparaissent parfois plus marqués pour le diabète. Ainsi, la consommation régulière de sorbate de potassium, E202, est associée à une fréquence deux fois plus élevée de cette pathologie. Certes, malgré la solidité de leur méthodologie, ces travaux ne permettent pas de conclure à un mécanisme direct de cause à effet entre ces problèmes de santé et la consommation des additifs concernés. Les sulfites, par exemple, sont principalement présents dans des boissons alcoolisées, comme le soulignent deux chercheurs n'ayant pas participé à ces études, Xinyu Wang et Edward Giovannucci, dans un commentaire publié dans la même édition du BMJ. Difficile donc de faire la part des choses entre l'effet de ces conservateurs et celui, très bien documenté, de l'alcool lui-même. Qui plus est, rappelle-t-il, les conservateurs présentent d'importants bénéfices en prolongeant la durée de vie des produits et en réduisant le coût de l'alimentation pour les plus modestes. Mais l'emploi de ces additifs est très fréquent et souvent mal évalué, alors que leurs effets à long terme sont incertains, notent ces chercheurs. L'étude de l'INSERM plaide d'ailleurs pour une réévaluation de leur encadrement avec, notamment, des limites plus strictes quant à leur usage. Qu'est-ce qu'une cohorte en épidémiologie? Une cohorte épidémiologique est constituée d'un groupe de personnes suivies et étudiées sur le long terme, individuellement. On distingue les cohortes de malades et les cohortes de population générale. Les premières regroupent des sujets suivis pour une même maladie. L'objectif est d'évaluer quels médicaments, quels traitements vont améliorer leur état de santé. Les secondes sont, au contraire, composées de personnes en bonne santé. Il s'agit alors d'étudier les facteurs qui déclenchent une maladie ou plusieurs, donc plutôt les facteurs de risque, afin d'établir des mesures de prévention. La cohorte Nutrinet Santé appartient à ce second groupe de cohortes et s'intéresse principalement au rôle de l'alimentation dans le développement de maladies. La plupart des grandes cohortes ont été développées après la Seconde Guerre mondiale et sont des outils majeurs de l'épidémiologie moderne. Parmi celles qui recueillent des données sur l'alimentation des Français, on peut citer la cohorte EPIC, mise en place en 1993, réunissant 520 000 participants âgés de 20 ans dans 10 pays, dont la France, ou la cohorte Constance, mise en place en 2012, qui vise à réunir un échantillon représentatif de la population française avec 200 000 participants âgés de 18 à 69 ans. C'était « Cancer, diabète ». Les soupçons sanitaires s'accentuent sur plusieurs conservateurs alimentaires. Un texte de Science et Avenir avec AFP, paru le 9 janvier 2026 dans Science et Avenir.
« 67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza, selon RSF. » Un texte d'Andrea Bambino de l'agence France Presse, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. « 67 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en un an, dont près de la moitié dans la bande de Gaza, sous le feu des forces armées israéliennes, accuse Reporters sans frontières dans son bilan 2025, publié le 10 décembre 2025. Le nombre de journalistes tués, du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025, note de la rédaction, est reparti à la hausse, du fait des pratiques criminelles de forces armées régulières ou non et du crime organisé, déplore l'Organisation de défense de la liberté de la presse, selon qui les journalistes ne meurent pas, ils sont tués. 6 jours après la condamnation du journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison en appel en Algérie pour apologie du terrorisme, RSF fait aussi état de 503 journalistes détenus à ce jour dans 47 pays du monde, 121 en Chine, 48 en Russie, 47 en Birmanie. L'organisation compte aussi 135 journalistes disparus, dont certains depuis plus de 30 ans, et 20 journalistes otages, principalement en Syrie et au Yémen. Reporters sans frontières avait dénombré 49 journalistes tués en 2023, l'un des chiffres les plus bas des 20 dernières années, mais la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023 a nourri une hausse de ce bilan en 2024. 66 tués selon un bilan réactualisé, et 2025, 67. Voilà où mène la haine des journalistes. Voilà où mène l'impunité, a dénoncé la directrice éditoriale de RSF, Anne Bokandé, auprès de l'AFP. Il y a aujourd'hui un vrai enjeu, c'est que les gouvernements se réinvestissent dans la question de la protection des journalistes et ne fassent pas, au contraire, d'eux des cibles, ajoute-t-elle. Avec au moins 29 employés de médias tués ces 12 derniers mois dans le territoire palestinien pendant qu'ils exerçaient leur métier et au moins 220 depuis octobre 2023, en comptant aussi ceux qui sont morts en dehors de leur activité professionnelle, l'armée israélienne est le pire ennemi des journalistes, accuse RSF. L'armée israélienne ne prend pas délibérément pour cible les journalistes, comme cela a été affirmé, a indiqué un porte-parole israélien à l'AFP en réponse à la publication de RSF, ajoutant qu'il y a des risques inhérents au fait de se trouver dans une zone de combat. Pas des balles perdues. Alors que les journalistes doivent être protégés comme des civils sur les zones de conflit, l'armée israélienne a été accusée à plusieurs reprises de les viser délibérément et a fait l'objet de plaintes pour crimes de guerre à ce sujet. L'armée israélienne avait notamment assumé avoir ciblé un célèbre correspondant d'Al Jazeera, Anas al-Sharif, tué parmi 5 autres professionnels lors d'une frappe en août en le qualifiant de terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Des accusations sans preuve, avait rétorqué RSF à l'époque. Il existe des dizaines d'exemples de journalistes actifs au sein d'organisations terroristes dans la bande de Gaza, a martelé le porte-parole militaire israélien joint par l'AFP, affirmant qu'Israël continuerait de combattre les organisations terroristes meurtrières tout en s'efforçant de minimiser les dommages causés aux civils. La directrice éditoriale de RSF dénonce la tendance à dénigrer des journalistes pour justifier les crimes. Il ne s'agit pas de balles perdues. C'est véritablement du ciblage de journalistes parce qu'ils informent le monde de ce qui se passe sur ces terrains-là, explique-t-elle. Reporters sans frontières déplore aussi l'année la plus meurtrière au Mexique depuis au moins 3 ans, avec 9 journalistes tués, malgré les engagements pris par la présidente de gauche élue en 2024, Claudia Sheinbaum. Les victimes couvraient l'actualité locale, dénonçaient le crime organisé ou ses liens avec les politiques et avaient reçu des menaces de mort explicites, explique l'organisation. L'Ukraine, 3 journalistes tués, dont le photoreporter français Anthony Lalican, et le Soudan, 4 journalistes tués, sont les autres pays au bilan le plus meurtrier, selon RSF. D'autres organisations ont des bilans différents en raison de méthodes de calcul qui varient. Sur son site Internet, l'UNESCO dénombre ainsi 91 journalistes tués à ce jour dans le monde en 2025. C'était 67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza, selon RSF, un texte d'Andrea Bambino de l'agence France Presse, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Bonne nouvelle, c'est une fille. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans la presse. De nombreux parents souhaitent désormais avoir une fille. Pendant des siècles, la préférence était marquée pour les garçons. Pourquoi cette tendance change-t-elle? Les filles sont-elles plus faciles à élever? Le magazine The Economist titrait le 5 juin 2025 « Phew, it's a girl », un article qui démontre que la préférence des parents pour les filles émerge dans de nombreux pays. Le magazine britannique révèle que la pratique consistant à avorter lorsque l'on sait que le bébé sera une fille simplement parce qu'il s'agit d'une fille est maintenant beaucoup moins courante, notamment en Chine, et qu'aujourd'hui, les parents ont même tendance à les privilégier. Parmi les bébés nés en 2000 à l'échelle mondiale, 1,6 million de filles manquaient à l'appel par rapport au nombre attendu entre les sexes à la naissance. Cette année, ce chiffre devrait être de 200 000 et il continue de baisser selon The Economist. Pourquoi cette préférence? Plusieurs hypothèses sont avancées. Les filles sont plus calmes et plus faciles à élever. Elles sont meilleures à l'école, elles prennent soin des parents vieillissants. C'est une idée préconçue de dire que les filles sont plus faciles à élever que les garçons, selon la psychologue Laurie Zéphir. Notre société a tellement valorisé l'image de la petite fille gentille, calme, qui ne bouge pas et qui ne cause pas trop de problèmes, mais la réalité, c'est que les filles peuvent être tout aussi énergiques et sportives que les garçons. Laurie Zéphir rappelle que chaque enfant vient avec son tempérament et son lot de défis, quel que soit son sexe. La psychologue est consciente que les stéréotypes perdurent, car elle voit dans son bureau de future mère qui s'inquiète. Elle pense qu'élever un garçon, ce sera plus difficile et synonyme de problème de comportement, qu'il sera plus agité qu'une fille. Il faut éviter de répandre ce message qui généralise un individu à son sexe. Les projections qu'on a sur les petites filles ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pour les petits garçons. On associe, par exemple, l'agressivité aux garçons, le décrochage scolaire, le sport, le hockey, le soccer, alors qu'on a l'image d'une petite fille avec une jolie robe et des couettes, et on se dit qu'elle sera douce, obéissante et potentiellement plus attentionnée et plus présente pour les parents, analyse Laurence Charton, professeur au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS à Montréal. Cette dernière souligne aussi que la société a évolué. Les femmes font des études, elles s'assument seules et ont accès aux mêmes emplois que les hommes. Il y a désormais une certaine égalité entre les hommes et les femmes et l'intérêt marqué pour les garçons s'estompe. Les lois ont effacé certaines inégalités, évoque Laurence Charton, professeur au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique. Par exemple, les femmes peuvent désormais transmettre leur nom de famille et l'autorité parentale n'est plus réservée aux hommes comme avant. Ce sont des éléments sociaux qui ont contribué à l'égalité des sexes et l'intérêt d'avoir un garçon est moindre par rapport aux bénéfices d'autrefois. Laurence Charton pense que cette préférence pour les filles apportera un certain rééquilibrage dans certaines sociétés. On sait qu'en Chine, le fait d'avoir longtemps préféré les garçons, il y a eu des avortements sélectifs, a créé un vrai déséquilibre démographique. On souhaite avoir des filles aujourd'hui parce qu'il y a un déséquilibre très fort. Vouloir tout choisir. Cathy Fengsk, qui anime un balado, Burnt Pancakes, sur la maternité, est mère de trois garçons. Elle avoue avoir vécu une immense déception lorsqu'elle a su qu'elle attendait un deuxième garçon. J'ai vécu une période de deuil. J'étais vraiment triste parce que je m'étais toujours imaginée avec une fille et je me suis dit que mon rêve ne se réaliserait jamais. Pas de robe de princesse. Pas de robe de mariée à magasiner. Je suis très près de ma mère et je me disais que plus tard, je n'aurais pas la même complicité avec mes fils, car on dit souvent qu'ils partent loin de leur famille, contrairement aux filles, confie-t-elle en entrevue. Julie Peters partage cet avis. Elle a deux fils, vit à Edmonton, et lorsqu'elle a découvert qu'elle attendait un garçon, elle s'est mise à pleurer. J'étais surprise de réagir comme ça. Je suis féministe, alors j'avais imaginé élever une fille et je me suis dit que je ne saurais pas élever un garçon. Mon mari voulait une fille, il voulait vivre le « daddy's girl », la chouchoute de son père. Elle se rend compte finalement que les futurs parents se projettent beaucoup trop et qu'eux-mêmes ne savent pas quel type de parents ils deviendront. La psychologue Laurie Zéphir voit des mamans qui sont enceintes de leur deuxième garçon et qui sont déçues. Elle pense qu'il faut accepter la réalité et qu'on ne choisit pas le sexe de notre enfant malgré les conseils de grand-mère. On doit déconstruire la vision selon laquelle mon enfant va correspondre à tous les stéréotypes liés au sexe. On voit dans les familles, par exemple, qu'on donnera comme jouet une poupée pour les filles et une voiture pour les garçons. Il faut se laisser la chance de découvrir notre enfant au-delà de son sexe. La sociodémographe Laurence Charton estime qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste et que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir, même choisir le sexe de leur enfant. On veut tout maîtriser tout le temps et nos désirs doivent non seulement se réaliser, mais là, tout de suite, ou presque. C'était « Bonne nouvelle, c'est une fille », un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
La Chine présente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ? Un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Auteur non précisé. Le président Donald Trump répète à l'envi que les États-Unis mettront la main sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, pour contenir les avancées de la Russie en Arctique, mais aussi celles moins flagrantes de la Chine. Au-delà de la Russie, qui possède un immense linéaire de côtes arctiques, l'AFP a examiné la véracité des propos de M. Trump sur la présence de la Chine, dont le point le plus septentrional se situe à environ 1500 km du cercle arctique. Les experts suggèrent qu'en réalité, la Chine reste pour l'instant un acteur marginal, même si elle a accru ses activités ces dernières années. Des bâtiments chinois partout ? On voit des destroyers et des sous-marins russes et des destroyers et des sous-marins chinois un peu partout, affirme M. Trump. Le Groenland ne grouille pas de navires chinois et russes, c'est absurde, dit Pål Sigurd Hilde du Norwegian Institute for Defence Studies. Dans d'autres parties de l'Arctique, la présence militaire chinoise, certes modeste, s'est accrue en collaboration avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le seul moyen pour la Chine d'acquérir une influence significative dans l'Arctique passe par la Russie, son voisin, dit Sigurd Hilde. Les deux pays ont intensifié leurs opérations conjointes dans l'Arctique. Des bombardiers russes et chinois ont mené en 2024 une patrouille commune à la jonction entre les continents asiatiques et américains, non loin de l'État américain de l'Alaska. La Chine opère quelques brise-glaces équipées de mini-sous-marins de haute mer, capables de cartographier les fonds, des repérages potentiellement utiles à des fins militaires. Elle opère aussi des satellites d'observation de l'Arctique. Pékin assure que ses visées sont scientifiques. Une influence grandissante ? Ces agissements constituent des préoccupations potentielles en matière de sécurité si l'armée chinoise ou des entités liées à l'armée établissent une présence régulière dans la région, dit Elena Lagarda du Mercator Institute for China Studies à Berlin. La Chine a l'ambition claire d'étendre son empreinte et son influence dans la région, qu'elle considère comme un théâtre émergent de compétition géopolitique, déclare-t-elle. la Chine a lancé en 2018 son projet de route de la soie polaire, déclinaison arctique de son initiative transnationale d'infrastructure, et ambitionne de devenir une grande puissance polaire d'ici à 2030. Elle a établi des stations de recherche scientifique en Islande et en Norvège. Des entreprises chinoises ont investi dans des projets tels que le gaz naturel liquéfié russe et une ligne de chemin de fer suédoise. Cependant, la Chine se heurte à des résistances. Des projets d'achat d'une base navale abandonnée au Groenland et d'un aéroport en Finlande ont avorté. Le Groenland a renoncé en 2019 à utiliser les équipements de Huawei pour ses réseaux 5G. La Chine investit massivement en revanche dans les ressources et les ports sur la côte septentrionale de la Russie. Quelles ressources ? Le Groenland possède les 8e plus grandes réserves mondiales de terres rares, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. La Chine domine de loin l'extraction, la séparation et le raffinage des terres rares dans le monde. Mais ses efforts pour exploiter la manne groenlandaise n'ont eu qu'un succès limité. Le gouvernement groenlandais a stoppé en 2021 un projet impliquant la Chine autour d'un important gisement à Knefiel pour des raisons environnementales. Un intense lobbying américain a débouché sur la vente en 2024 d'un autre gisement à une entreprise new-yorkaise. On craignait il y a une dizaine d'années au Danemark et aux États-Unis que des investissements miniers représentant plusieurs fois le PIB du Groenland n'entraînent une influence chinoise, mais ces investissements ne se sont jamais concrétisés, observe Jasper Willing-Zersen, professeur associé à l'université d'Aalborg au Danemark. Aujourd'hui, les réticences à s'engager sont fortes du côté chinois parce que le coût diplomatique est devenu trop élevé. Quelle route empruntent les navires chinois ? La route de la soie polaire vise à relier la Chine et l'Europe via les routes arctiques, de plus en plus accessibles avec la fonte de la glace. La Chine et la Russie se sont entendues en octobre pour développer la route maritime du Nord le long de la frontière nord de la Russie. L'an dernier, un navire chinois a atteint la Grande-Bretagne en 20 jours via l'Arctique, soit deux fois moins de temps que par la voie habituelle du canal de Suez. Mais la route du Nord reste dangereuse et coûteuse et des navires chinois ne l'ont empruntée que 14 fois en 2025, principalement pour transporter du gaz russe. La route maritime du Nord ne passe pas par le Groenland. Elle peut donc difficilement justifier les affirmations de M. Trump sur la présence chinoise le long de ses côtes. Il n'existe aucun signe d'activité militaire chinoise dans ou autour de la partie arctique du Groenland, dit Jasper Willing-Zersen. On a beaucoup de mal à identifier un véritable problème sécuritaire, dit-il. C'était « La Chine représente-t-elle la menace que prétend Trump dans l'Arctique ?» un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.